Ce sont les politiques qui doivent s'adapter aux pauvres et pas l'inverse. Cette phrase, écrite par des juristes, est reprise par Françoise Tulkens. Elle est ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme et elle fut professeure à l'Université de Louvain, docteur honoris causa des universités d'Ottawa, de Genève, de Limoges, de Liège, de Gand et de Brighton. Françoise Tulkens a aimablement accepté pour l'émission Conférence de développer le thème des droits humains à l'épreuve de la pauvreté. Cet enregistrement date du 4 juin 2020.
Bien, voilà. Alors, chers amis, je suis extrêmement contente de vous parler d'un sujet qui est difficile, mais qui, moi, me tient vraiment à cœur. C'est la question des droits fondamentaux, des droits et libertés, des droits humains. C'est un peu tout ce qui donne sens à une vie, disons-le, ou en tout cas à ma petite vie, ça c'est sûr. Mais la question des droits humains, aujourd'hui, à l'épreuve de la pauvreté. Alors voilà, je vais partir d'un travail qui a été fait en décembre, le 20 décembre dernier, à la Cour constitutionnelle. Vous connaissez peut-être la Cour constitutionnelle, c'est cette juridiction suprême en Belgique qui, au fond, travaille, discute, analyse la conformité de nos lois, de nos décrets, des ordonnances à la Constitution. Il y avait une séance d'hommage à un juge, et cette séance d'hommage à un juge était consacrée précisément le droit face aux pauvres. Donc, on est le 20 décembre 2019, et bien sûr, par après, vous savez, nous connaissons tous ce qui est tombé sur nous. Je ne dis pas que c'est un tsunami, je ne dis pas que ce n'était pas prévu. On en parlera un peu plus loin. Mais bref, c'était une discussion qui a eu lieu à ce moment-là sur le droit face aux pauvres. Et c'est un ouvrage qui en rend compte avec toute une série de contributions sur ce thème. Donc, si vous voulez vraiment savoir comment se situe la question des droits fondamentaux dans les situations de pauvreté et d'extrême pauvreté, eh bien, voilà un livre qui pourrait être un vrai compagnon pour vous. Je vais partir du texte d'introduction que j'ai dû faire dans ce livre et vous en parler. Et ce qui me frappe évidemment, c'est que ce texte a été pensé en décembre dernier et on en parle aujourd'hui après la question de la pandémie, du virus, enfin tout ce que nous avons tous vécu ces derniers temps. Et d'une certaine manière, il y a une actualité qui reste. Il y a une actualité qui reste et on verra effectivement que la situation du pouvoir des gouvernements, de l'État, dans les situations d'austérité, eh bien d'une certaine manière, a un peu préparé notre impréparation par rapport à la crise sanitaire. Alors, au départ de cet ouvrage, je vais aborder trois choses. Donc, je suis juriste, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, je suis juriste, voilà, attaché aux droits fondamentaux, aux droits et libertés, qui traversent évidemment toutes les branches du droit, mais ma spécialité, entre guillemets, ou ce que je faisais auparavant quand j'étais à l'Université de Louvain, c'était essentiellement le droit pénal et la criminologie, vu bien sûr à travers le prisme des droits fondamentaux. Alors après une expérience de 14 ans à la Cour européenne des droits de l'homme, je vais évidemment parler des droits de la Convention européenne des droits de l'homme. J'espère que ce ne sera pas trop technique, évidemment avec le système que nous avons ici, il n'y a pas moyen de poser des questions, donc j'espère ne pas vous embarquer dans des questions trop techniques ou trop jargonnantes. Si c'est le cas, bien pardonnez-moi, on trouvera une manière de corriger ça. Je voudrais aborder trois thèmes. Tout d'abord, des sujets de dignité, ça sera ma première partie, je vais vous expliquer ce que j'entends par ça. Et puis, dans un second temps, je vais évoquer la question des droits humains et des droits fondamentaux pour tous. Et puis, dans une troisième partie, je voudrais rattacher la question de la pauvreté aux injustices sociales. Donc, des sujets de dignité, des droits pour tous, les injustices sociales. Alors, dans l'introduction telle que je l'avais pensée et prononcée à la Cour constitutionnelle en décembre dernier, vous savez que la Cour constitutionnelle se trouve à Bruxelles, à la place royale, tout à côté de la gare centrale. Et il se fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a eu un ouvrage récent qui évoque au fond et qui s'appelle « Rue des droits de l'homme ». Cet ouvrage « Rue des droits de l'homme », c'est une chronique de l'expérience de la gare centrale à Bruxelles. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais pendant des années, je crois que ça continue encore maintenant, tous les jeudis soirs, il y a un groupe de juristes, de toutes personnes de bonne volonté, qui sont à la gare centrale et qui parlent avec les SDF qui sont là. Il y a tout un groupe de SDF à la gare centrale, que l'on trouve d'ailleurs dans le corridor, que l'on trouve le jeudi soir dans ces réunions. Et ce livre qui s'appelle « Rue des droits de l'homme » est vraiment pour moi un point de départ assez extraordinaire, parce que ça montre que la pauvreté, la grande pauvreté, elle existe dans nos murs, chez nous, dans les rues, dans les espaces publics, dans tous ces lieux que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, dans lesquels les exclus trouvent un asile précaire. Et alors, dans cet ouvrage, on voit très bien, parce qu'il donne la parole à toutes ces personnes, l'auteur donne la parole à toutes ces personnes, et on voit au fond, sans complaisance, la vie rongée, défigurée de ces hommes, de ces femmes qui sont frappées par la tyrannie de la misère et la dictature du politique. Et quand on voit l'histoire au quotidien, les récits bruts, c'est Paul, Joseph, Roland, Jean-Paul, Marie-Louise, ils s'expriment avec, je dirais, une force et une genre extraordinaire, et on doit entendre leur voix. On doit entendre leur voix parce que si, ça c'est peut-être le message pour moi essentiel au départ, j'espère qu'on retrouvera à l'arrivée, c'est que pour lutter contre la pauvreté, on doit partir de la réalité des personnes, de la base au sommet et pas l'inverse. Et on sent à travers cet ouvrage les sentiments de honte, de mépris qui tenaillent ces gens et qui rendent cette population invisible, invisible même à ses propres yeux. Il la réduit au silence, même jusqu'à la mort. Vous savez qu'il y a un collectif des morts de la rue qui existe. Moi, je ne le savais pas il y a quelque temps. Le collectif des morts de la rue, eh bien, c'est un collectif qui, au fond, rassemble les personnes dont des membres de la famille ou des amis sont morts tout simplement dans la rue. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Alors on voit d'autre part ces sentiments de honte de ces personnes et puis on voit en même temps, et c'est ça l'élément positif, une grande lucidité de toutes ces personnes qui sont là à la gare centrale tous les jeudis soirs. Ils ont une grande lucidité pour assumer leur statut d'errant et puis surtout une volonté absolument farouche de tenter ensemble avec ces fidèles visiteurs du jeudi soir et parmi lesquels même des magistrats étant mieux, heureusement qu'ils sont là. Ils veulent construire ensemble une réponse digne, respectueuse et en utilisant toutes les ressources du droit et des droits humains. Et donc, c'est pour ça que le thème des droits humains et la pauvreté, c'est vraiment pour moi un thème essentiel parce que c'est une rencontre à la fois urgente et nécessaire. Il faut partir de la base et c'est à partir de là qu'on pourra lutter. Alors aujourd'hui, bien entendu, si j'avais dû refaire cette intervention aujourd'hui, ben, la pauvreté liée à la pandémie, on le voit partout. Encore ce matin, dans les journaux que je lisais, on revient sur cette question. La pandémie, celle que nous connaissons là maintenant depuis 3 mois, 4 mois, accentue la pauvreté. Donc, dans cette intervention, je ne vais pas parler précisément de la pandémie, mais il me semble quand même que toutes les réflexions sur la crise, parce que moi j'évoquais davantage la crise économique, mais la crise sanitaire aujourd'hui pose évidemment des questions majeures par rapport à la pauvreté et au respect des droits fondamentaux. Voilà, je dirais pour l'intro. Le message essentiel, partir de la base vers le sommet et pas l'inverse. C'est vraiment le thème pour moi crucial. Des sujets de dignité. Je ne suis pas philosophe, je vous l'ai dit, donc je ne vais pas faire de la philosophie sauvage, non. Mais néanmoins, on doit quand même être attentif aux réflexions que l'on entend de ceux qui justement font profession de philosophie, qui souvent nous éclairent. Et il y a souvent une réflexion que j'entends et que je voudrais simplement vous répercuter. Certains disent, et je comprends, qu'en dehors de la société, il n'y a pas de droit pour les plus démunis, comme il n'y a pas de levier pour les utiliser. Alors, cette phrase est évidemment lourde de sens. En dehors de la société, il n'y a pas de droit pour les plus démunis, comme il n'y a pas de levier pour les utiliser. Alors, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'Union européenne ou d'autres instances internationales parlent du socle des droits sociaux fondamentaux qui doivent être garantis à toute personne? On entend ça au niveau de l'Union européenne, c'est un programme de l'Union tout récemment. Il faut garantir le socle des droits fondamentaux à toute personne. Je le pense, je le crois, il faut le faire. Est-ce que ce n'est pas de la pure rhétorique? Et c'est là qu'alors l'analyse des philosophes, je trouve, nous éclaire. Et je prends l'analyse de Hannah Arendt, qui a écrit sur le droit et la justice des choses que je trouve vraiment, enfin qui personnellement en tout cas m'éclaire beaucoup. Et Hannah Arendt, ce qu'elle dit à l'époque, parce que ce sont des textes anciens évidemment, notamment les origines du totalitarisme, mais ce qu'elle dit pour moi reste d'une singulière actualité. Et que dit-elle? Que dit-elle en raison de son expérience au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Elle dit « L'appel à la dignité risque d'être tragiquement inutile si certaines conditions ne sont pas remplies. » Une personne ne peut avoir de droit et ne peut voir sa dignité respectée que si elle est insérée dans une communauté politique et juridique. Et c'est ça le point crucial. Les droits de l'homme n'ont pas empêché les camps d'extermination, observe-t-elle. Et pourquoi ? C'est parce que les personnes qui y ont péri n'avaient plus de statut en droit. Et donc, c'est là la conclusion. Il importe de reconnaître aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux pauvres, aux exclus, à tous les êtres humains, leur qualité de sujet de dignité. Je dirais, voilà l'analyse philosophique qui, moi, me guide sur ce terrain-là. Et puis en écho, parce qu'alors évidemment, les textes juridiques et les textes qui garantissent ces droits fondamentaux sont d'une force extrême. En écho, pour moi, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. S'il y a un article et une convention que vous devez retenir, je dirais presque par cœur, c'est cet article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, au lendemain de la guerre, au moment où la situation politique n'était pas aussi facile que ça, loin de là. Et que dit cet article 1 ? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et ça, c'est vraiment le point central. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et maintenant, il faut donner à ce texte une réalité concrète. Alors, sujet de dignité, voilà le sens de cette première partie des sujets de dignité au départ de cette réflexion philosophique et juridique de Hannah Arendt et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, deux questions dans ce cas thème général des sujets de dignité. Tout d'abord, les effets de la crise sur les droits humains. Et, permettez-moi de le dire, mais voilà, c'est un texte que j'ai fait en décembre 2019 et je le relis moi-même aujourd'hui à la lumière de la crise sanitaire que nous connaissons. Alors, je ne vais pas du tout dire que j'avais vu juste avant ni rien du tout. Ça, c'est une prétention intellectuelle qui n'a pas de sens. Mais on voit qu'il y a vraiment des parallèles. Les situations de pauvreté sont très souvent reliées ces dernières années à la crise économique. Je dirais avant l'irruption de la crise sanitaire, on liait les situations de pauvreté à la crise économique et aux mesures d'austérité qu'elle justifie, même si, lorsqu'on examine concrètement ces mesures d'austérité, certains soutiennent de manière un peu malicieuse ou de manière un peu provocatrice que ces mesures servent davantage les marchés financiers que la crise elle-même. Et donc, l'argument de la crise économique, et on pourrait dire un peu aujourd'hui, mais avec un thème évidemment différent, de la crise sanitaire, n'atteint pas tout le monde de la même manière. Il y a des effets évidents sur les droits humains. D'abord, et je dirais en ce qui concerne la crise économique, et on peut voir si la crise sanitaire aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, bien entendu, je ne vais pas le répéter tout le temps, ce n'est pas la même chose, mais la crise sanitaire est quand même la continuation aussi de la crise économique. Et on dit beaucoup aujourd'hui en ce qui concerne la crise sanitaire que c'est un tsunami, qu'on ne pouvait pas l'imaginer, que c'était imprévisible. Oui, le virus est imprévisible. Mais pardonnez-moi un mauvais jeu de mots, par moments j'ai un peu l'impression que par précisément l'effet de la crise économique, des mesures d'austérité qui ont atteint les droits fondamentaux, on a d'une certaine manière préparé l'impréparation. Ou en tout cas, on n'a pas préparé l'imprévisible. Or, c'est ça le rôle d'un État. Donc moi, j'ai un peu le sentiment qu'on a préparé dans nos pays, avec cette crise économique et les mesures d'austérité, la préparation que l'on présente maintenant comme étant un cas de force majeure. Oui, bien entendu, la manifestation en est un. Mais les choses se construisent. Alors, ces effets de la crise économique et de la crise sur les droits humains, d'abord, il y a, je dirais, trois observations là-dessus. La crise et les mesures d'austérité exposent les personnes vulnérables et précarisées, les minorités, les étrangers, les immigrés, les détenus, les personnes malades, les personnes en situation de handicap, plus exactement en situation de handicap, elles sont confrontées à des difficultés particulières. Et on le voit tous les jours, pas seulement dans le prétoire des juges, mais dans la vie quotidienne. Et alors, je voyais dans un article du Monde, on parlait des grands principes pour guider l'économie mondiale proposés par des anciens économistes de la Banque mondiale qui disent notamment ceci, la politique économique, et aujourd'hui c'est là ce qu'on doit faire dans nos pays, la politique économique doit viser le développement inclusif. Plutôt que d'attendre que la vague du développement bénéficie à tous, les décideurs doivent s'assurer qu'aucun groupe ne soit laissé pour compte. Donc, premier point, la crise, les mesures d'austérité, la politique économique ne peut pas exposer les personnes vulnérables à des difficultés particulières qui sont parfois insurmontables. Aucun groupe ne peut être laissé pour compte. Deuxième observation sur ces effets de la crise sur les droits humains, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la crise. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le contexte de la crise économique et aujourd'hui dans la crise sanitaire, me frappe énormément. Nous sommes tous là maintenant à applaudir tous les soignants et surtout les soignantes. On est tous là à dire, et je le dis, je le répète, que si la Belgique vit et a vécu ces derniers mois, eh bien, ce sont les femmes qui ont fait vivre la Belgique. Ça, c'est bien clair. Eh bien, on voyait déjà depuis longtemps, c'est pour ça que ça se prépare, la préparation. On voyait très bien que les femmes et les hommes n'étaient pas égaux face à la crise. La Fondation Roboudouin, qui fait quand même des très, très beaux travaux, je le dis de manière, pardonnez-moi, un brin intéressé, parce que, pas intéressé, entendons-nous, j'étais pendant quelques années présidente de la Fondation Roboudouin. J'ai trouvé qu'il y avait là des ressources importantes pour tâcher d'avoir des activités très, très importantes dans le domaine de la pauvreté. Et dans la Fondation Roboudouin, un de ses premiers textes majeurs dans les années 80, c'est justement le rapport sur la pauvreté. Et c'est un thème que la Fondation continue à poursuivre, je dirais, à travers toutes les étapes du développement social. Et lorsque j'étais présidente de la Fondation, c'est quelque chose qui vraiment, pour moi, revêtait une importance particulière. Et la Fondation, tout récemment, vient de faire un texte, c'est pas vraiment un texte, c'est une contribution, qui parle du sans-abrisme au féminin. Le sans-abrisme au féminin est le texte, le titre de cette intervention, c'est « Les femmes en errance ». Les femmes en errance, le sans-abrisme au féminin. C'est une recherche-action qui a eu lieu sur le parcours des femmes avec enfants au sein de structures d'accueil en Wallonie et à Bruxelles. On voit très bien que les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à la crise. Et le sans-abrisme au féminin en est évidemment un exemple tout à fait clair. Elles sont moins visibles que les hommes dans l'espace public, c'est certain. On voit beaucoup moins de femmes dans l'espace public. Mais les femmes en errance, ce titre du rapport, je trouvais vraiment important, ces femmes en errance présentent des vulnérabilités particulières, ça c'est certain. Et les mesures d'austérité les frappent de manière disproportionnée et compromettent les progrès déjà réalisés en ce qui concerne la jouissance des droits fondamentaux. Et ça, quand je mets cette observation dans le contexte d'aujourd'hui, c'est évident que les femmes sont frappées de manière plus forte par la pandémie où nous sommes maintenant, même si nous glorifions tous leur action. Mais maintenant, il faut que les actes suivent, je ne peux pas le dire autrement, parce que sinon la pauvreté des femmes va être encore développée et va être encore plus grave. Et c'est ce que l'on commence à dire de tous côtés. C'est ce qu'on commence à dire de tous côtés, les bourses alimentaires. Eh bien, il y a énormément de femmes qui sont là. Il y en a une près de chez moi. J'y vais souvent, je ne dis pas comme voyeuse, parce que je ne voudrais pas faire ça, mais je passe souvent devant et j'ai 9 dixièmes, ce sont des femmes. Les 9 dixièmes sont des femmes. Donc, pour enrayer cette tendance et l'inverser, il faut aujourd'hui, dans la relance, adopter des mesures qui tiennent compte de considérations de genre. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et si on ne le fait pas, alors on fait mieux d'éteindre la musique à 8 heures et de faire autre chose. Ça, c'est pour moi vraiment un point crucial. Et puis, troisième étape, les rigueurs de la situation économique, les mesures d'autorité, et ça, c'est un aspect plus politique, ça favorise aussi, et on le voit aujourd'hui, le recours à des extrémismes. Et la recherche du bouc émissaire, bien entendu, dans une situation de crise, dans une situation de difficulté, on cherche tous, c'est humain, une espèce de responsabilité qui nous déchargerait de la nôtre. Or, évidemment, cette recherche du bouc émissaire, menace de saper les piliers et les extrémismes, bien sûr, menace de saper les piliers sur lesquels reposent les droits humains, et notamment ceux de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque vous avez dit c'est surtout ceux-là dont je vais parler, parce que c'est au service de ces droits que j'ai été pendant près de 14 ans. Donc voilà, je voudrais surtout parler de ces droits de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Convention, elle est fondée sur deux piliers auxquels il faut être tout le temps attentif, la démocratie et l'état de droit. C'est Ricoeur qui disait de nouveau... Moi, je prends les philosophes pour m'aider à réfléchir. Je ne suis pas philosophe, je le redis. Mais c'est intéressant de voir comme tout d'un coup, en prenant distance, eh bien, eux, ils nous permettent de voir la réalité avec plus de finesse. Et Ricoeur, qui a aussi de très, très belles pages sur la justice, il dit « Nos institutions sont fragiles, elles sont périssables. Leur maintien et leur développement demandent une vigilance extrême et un engagement solide. » Or, précisément, en période de crise, les États, les individus, crise économique, crise sanitaire, je dirais c'est un peu la même dynamique, sont tentés de se replier sur eux-mêmes et d'opter une position défensive. L'égalité, la non-discrimination, la prééminence du droit, l'accès à la justice, qui sont quand même des piliers de civilisation aujourd'hui, dans notre civilisation démocratique du XXIe siècle, ils risquent en contre de perdre du terrain dans des politiques des gouvernements en quête de solutions rapides ou confrontés à des choix simplement, confrontés à des choix difficiles. Et c'est dans ces moments difficiles, ceux que nous avons vécu et que nous vivons aujourd'hui, que la société démocratique précisément est mise à l'épreuve. Et je vais en dire un mot dans un moment. Je crois que c'est le juge Brandeis de la Cour suprême des États-Unis. Évidemment, parler des États-Unis aujourd'hui, quand on voit ces manifestations en ce qui concerne la vie d'un noir et Mattered, Life of a Black Matter, Does Matter, quand j'entends ce slogan, je me dis, voilà, il y a aux États-Unis des moments d'horreur et puis des moments de résistance comme ça qui sont importants et que l'on voit aujourd'hui même. Et le juge Brandeis de la Cour suprême des États-Unis disait ceci, et ça c'était plus lié à l'aspect économique, nous pouvons avoir ou bien la démocratie ou bien de grandes richesses concentrées entre les mains de quelques-uns, mais pas les deux à la fois. Et ça, je trouve, c'est tellement vrai. Ou bien la démocratie, ou bien les grandes richesses concentrées entre les mains de quelques-uns, mais pas les deux à la fois. Donc, dans ce sujet de dignité, les effets de la crise sur les droits humains, second sous-thème, la démocratie mise à l'épreuve. Les mesures prises en réponse à la crise ne peuvent pas porter préjudice aux droits humains fondamentaux. Ces droits humains fondamentaux, et on en va évoquer certains, ne peuvent pas être sacrifiés ou non, moi je dis, à l'époque d'une discipline macroéconomique. Et ici, s'agissant de la crise sanitaire, je dirais, ne peuvent pas être sacrifiés sans raison absolue, nécessaire, proportionnée aux exigences sanitaires. Là, c'est vraiment un débat tout à fait important et que l'on mène aujourd'hui un peu de tous côtés par rapport à la crise sanitaire que nous vivons. Les droits fondamentaux ne sont pas les ennemis de la santé, ce sont des alliés. Les questions de santé seront d'autant mieux gérées avec d'autant plus d'efficacité comme les ces questions économiques, si les droits fondamentaux, la vie privée, la vie personnelle, le droit à la vie, l'interdit de la torture, la liberté d'expression sont respectés. Alors, aujourd'hui, par rapport à la crise économique, et là je projette alors par rapport à ce que sera demain, les réactions à la crise sanitaire, en ce qui concerne la crise économique, ça n'a pas toujours été le cas du tout. Et donc, je vois très bien que de nombreuses instances internationales de protection des droits humains constate que dans les mesures de réponse à la crise économique, eh bien, les droits humains ont été oubliés. Et donc, aujourd'hui, alors, je pourrais vous citer toute une série de textes du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Je ne vais pas le prendre en détail, mais il y a des rapports du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui observent très clairement que de nombreux gouvernements, qui à cause des mesures d'autorité, oublient leurs obligations en matière de droits humains, notamment les droits économiques, sociaux et culturels des plus vulnérables et la nécessité de garantir l'accès à la justice et le droit à l'égalité de traitement. Et ça continue tout à fait en ce sens. Il souligne que les gouvernements doivent associer les structures nationales des droits de l'homme à toutes les phases du processus de relance afin qu'elles puissent donner des avis spécialisés sur les groupes qui ont le plus besoin de protection et sur les effets des différentes mesures politiques et les conséquences plus générales de la crise sur les droits humains. Alors ici, on est au cœur de ce qui devrait se passer aujourd'hui en Belgique. On est vraiment au cœur de quelque chose auquel on devrait être attentif en Belgique par rapport à la crise sanitaire. Vous savez sans doute, parce qu'il y a 10 ans qu'on en parle, c'est vraiment l'arlésienne. En Belgique, il y a des années qu'on parle d'une institution qui devrait s'appeler l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains. C'est un peu l'équivalent par rapport à la Belgique de ce qui existe en France depuis une vingtaine d'années, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est un institut qui assure la protection, la promotion des droits humains et qui, dont la mission est de vérifier la compatibilité des lois, des décrets, des ordonnances avec précisément les droits humains européens, internationaux, la Convention des droits de l'homme, la Déclaration universelle des Nations unies, les pactes des Nations unies, puisque nous avons la Charte des droits fondamentaux de l'Union, puisqu'il y a aujourd'hui des droits fondamentaux dans toutes les enceintes universelles et régionales. On n'a jamais eu autant de textes, ça c'est vrai. Donc aujourd'hui, il est de plus en plus important qu'ils soient respectés. Et donc, lorsque le Conseil de l'Europe dit les gouvernements n'ont guère pris en compte dans leurs obligations, les obligations en matière de droits de l'homme, et qu'ils demandent que les gouvernements des États soient associés à ces mesures, que les structures nationales des droits de l'homme soient associées. Cet institut pour la Belgique, cet institut fédéral, maintenant, il a été créé par une loi après 10 années d'atermoiement, il a été créé par une loi de 2019, mais de nouveau, c'est toujours le même problème. la loi du 12 mai 2019, on est aujourd'hui, ah ben voilà, un an après, 12 mai 2019, 2020 maintenant, il n'est toujours pas mis en place. Donc, voilà, pour rentrer dans cette exigence d'effectivité, eh bien, il faut prendre dans les mesures de réponse à la crise, les mesures de relance, il faut prendre en compte les droits économiques et sociaux des plus vulnérables. Et puis alors, il y a toute une série de recommandations, mais je ne vais pas entrer là parce que voilà, nous avons une heure et le temps passe. Le Haut-Commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, vous savez que aussi bien au niveau de l'Europe, il y a le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, les Nations Unies, où c'est aussi un haut-commissaire, bien entendu, c'est le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, qui aujourd'hui est occupé par Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili. C'est un instrument d'une importance considérable, tout ça, instance de contrôle, de vérification de ce qui se passe dans les différents pays. Eh bien, il dit tout à fait la même chose. Lorsque les mesures d'austérité se traduisent par des dispositions régressives qui entravent l'application des droits fondamentaux, la charge de la preuve revient à l'État. Il faut fournir la preuve que ces mesures sont nécessaires, raisonnables, temporaires, proportionnelles. C'est exactement les exigences que l'on doit maintenant faire valoir par rapport aux mesures sanitaires, que s'il y a des restrictions aux droits fondamentaux, il faut prouver le caractère raisonnable, temporaire, proportionnel. On peut presque revoir mot par mot ce que l'on doit dire aujourd'hui à notre gouvernement. Voilà, j'ai envie de dire pour ce second point, second sous-point dans les sujets de dignité. Sujet de dignité, bien entendu, c'est important. Hannah Arendt, comment effectivement faire en sorte que les personnes vulnérables soient des sujets de dignité, que tout le monde soit des sujets de dignité, porteurs des droits fondamentaux, article 1 de la Déclaration. Effet de la crise sur les droits humains, être extrêmement attentif à ça, les personnes les plus vulnérables, les femmes, le recours aux extrémismes. La démocratie est mise à l'épreuve, c'est certain. La démocratie est mise à l'épreuve dans cette situation-là, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut y être extrêmement attentif. J'en viens alors à la seconde partie. J'en viens à la seconde partie des droits pour tous. Des droits pour tous, oui, les droits humains sont pour tous, bien entendu, hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, malades mentales, en bonne santé physique et mentale, à tous, quels qu'ils soient. Ça, c'est délinquant ou non délinquant, terroriste ou non terroriste, là, il faut le rappeler, enfin, c'est tout un autre thème sur lequel aussi on pourrait discuter longuement. Il s'applique à tous. Pourquoi ? Parce que les droits humains assurent le respect de la dignité humaine. Point à la ligne, c'est tout. C'est tout, c'est ça les droits humains. Ce n'est pas plus que ça, mais c'est tout ça en même temps. Alors, des droits pour tous, et là, je vais prendre différents thèmes. D'abord, rappeler que c'est à l'agenda politique aujourd'hui. Puis alors, je vais voir par rapport à certains droits de la Convention européenne des droits de l'homme, comment en utilisant certains droits de la Convention des droits de l'homme, eh bien, on peut avoir une approche inclusive des droits humains. Et par rapport à la protection sociale, par rapport au droit au logement, ce sont les deux thèmes que je vais reprendre. Eh bien, il y a moyen d'utiliser ces droits pour faire valoir le respect de ceux-ci pour les personnes dans l'extrême pauvreté. D'abord, l'agenda politique. Et j'y insiste un peu parce que l'agenda politique est souvent assez chargé, et tant mieux. Tant mieux, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on est dans le désert, on est plutôt dans le trop-plein. Les relations pauvreté et droits humains sont à l'agenda politique, aussi bien au niveau international. Et quand je parle de niveau international, je vise au fond un peu toujours les Nations Unies. C'est l'enceinte universelle des Nations Unies qui, à ce niveau-là, évidemment, l'enceinte significative. Qu'au niveau européen, quand j'évoque le niveau européen, c'est bien sûr la Convention des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, mais aussi l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux. Alors, bien entendu, je ne voudrais évidemment pas l'exclure, mais c'est tout simplement pas la compétence pour aller plus loin. Il n'y a pas que l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine, il y a évidemment d'autres continents et d'autres. Mais là, voilà, je ne peux pas tout couvrir, et sur ce terrain-là, je n'ai pas la compétence pour y entrer de manière aussi forte. Alors, c'est à l'agenda politique, et la communication de la Commission européenne au Parlement, au Conseil, dans le cadre des objectifs pour le développement durable, à de nouveau de ces phrases qui sont des phrases, pas slogans parce que ça donnerait un aspect péjoratif à ça, mais des phrases fortes dans lesquelles la Commission européenne dit au Parlement européen, dit au Conseil, le Conseil européen, c'est les conseils des chefs d'État qui se réunissent à Bruxelles ici tous les X et qui récemment effectivement ont enfin obtenu la délivrance de cette somme immense de 750 milliards d'euros pour réagir à la pandémie. Eh bien, cette communication dit ceci, une vie décente pour tous, de la vision à l'action collective. Alors, il faut prendre ça presque mot à mot, et c'est ça le travail que nous devons faire maintenant. Tant mieux que ces institutions mettent ça à l'agenda politique, tant mieux qu'elles aient de ces affirmations qui nous font tous rêver, mais qui maintenant peuvent nous inciter à agir. Une vie décente pour tous, de la vision à l'action collective. Et puis, il y avait une résolution aux Nations Unies. Les Nations Unies sont très, très engagées sur ces questions-là. Une résolution déjà en 2012 et qui a continué encore des années après, droits de l'homme et extrême pauvreté, elle engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination. La question de la discrimination dans la pauvreté, c'est un thème auquel il faut être attentif. Parce que c'est ça, au fond, la question. La discrimination, ce n'est pas simplement par rapport à la race ou par rapport à la couleur de la peau, par rapport au genre, c'est aussi par rapport à la précarité sociale. Ça, il faut le savoir, je vais en dire un mot dans un moment. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination à l'égard de qui que ce soit, surtout pour les personnes vivant dans la pauvreté. Et donc, les États, rappellent les Nations Unies, doivent s'abstenir d'adopter toute loi, réglementation pratique qui les empêcherait d'exercer leurs droits et libertés fondamentales, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, et veiller à assurer aux pauvres l'égalité d'accès à la justice. L'accès à la justice, je reviendrai là-dessus, c'est important. Accès à la justice, discrimination, voilà deux thèmes majeurs. Ce sont deux points sensibles et au fond pas tellement connus. En ce qui concerne les discriminations, je ne sais pas quel est l'avenir de cette loi en France, mais j'ai quand même vu qu'il y avait une loi en France et quelqu'un comme Diane Roman. Il a écrit une contribution dans l'ouvrage dont vous parlez au début. C'est une grande spécialiste de la question de la pauvreté et des droits humains. C'est vraiment quelqu'un de magnifique qui écrit des choses splendides et qui donne maintenant des cours à l'ULB aussi. Donc voilà, si vous voulez la suivre ou la voir ou parler avec elle, c'est vraiment une personne ressource dans ce domaine. Et elle connaît bien cette loi de 2016. Cette loi de 2016 en France vise à lutter contre la discrimination en raison de la précarité sociale. La précarité sociale devient un critère ou une cause de discrimination, chose auxquelles on ne pensait pas vraiment auparavant. Évidemment, ça révèle en creux que les inégalités peuvent porter atteinte à l'exercice des droits, mais qu'elles peuvent aussi être un facteur de désordre et d'instabilité. Et c'est ça le message derrière. Et donc, la prévention des crises doit aller de pair avec la lutte contre les inégalités. Ça, c'est un message important. Maintenant, je ne sais pas du tout si cette loi a eu un effet, oui ou non. Donc ça, il faudrait poser la question à Diane Roman. Donc, des droits pour tous. Tout d'abord, à l'agenda politique, très bien, dans les enceintes universelles, dans les enceintes régionales. Mon second point, sous-point, dans cette seconde partie sur les droits pour tous, une approche inclusive des droits humains. Moi, je pense, et je n'engage que moi en disant ça, que dans le rôle qui est celui de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour européenne des droits de l'homme que j'ai vraiment eu l'honneur de servir pendant 14 ans, qui a été confrontée à ces questions, je trouve que dans le rôle de la Cour, elle doit examiner de manière particulièrement critique les arguments des périls financiers. C'était ça qui se posait à l'époque où j'y étais, puisque j'étais là de 98 à 2012. Et donc, c'était essentiellement les arguments des périls financiers et économiques qui étaient mis en avant par les gouvernements pour justifier une non-reconnaissance ou une absence de reconnaissance des droits et libertés, notamment les droits droit à la vie, le droit à l'interdit de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Et sur ce point-là, la Cour a été quand même très attentive. Elle a été très attentive, je pense, à un arrêt, puisque la Cour, elle produit des arrêts, et les arrêts, ça fait jurisprudence. Et ces arrêts donnent un peu l'interprétation des droits garantis par la Convention. Il y a un arrêt Nencheva contre la Bulgarie, peu à tort de nom, ça vous trouverez les références dans le livre. C'est un arrêt de 2013, et ça concerne le droit à la vie. Le droit à la vie, c'est l'article 2 de la Convention. Je ne dis pas que c'est le droit qui a la priorité sur tous les autres, parce qu'il n'y a pas de priorité dans les droits fondamentaux. Mais c'est quand même, d'une certaine manière, le droit premier dans l'échelle des droits. Pourquoi ça sert d'avoir la liberté d'expression si on n'a pas la vie? C'est un peu simple, mais c'est ça. Et la Cour va conclure à la violation du droit à la vie, un droit absolu, indérogeable, sans exception aucune, même en cas de danger qui menace la vie de la nation. C'est ce qu'on appelle un droit indérogeable. Elle a conclu ici à la violation du droit à la vie dans une situation de crise économique où 15 enfants, des adultes et des enfants handicapés, placés en institution, étaient décédés en hiver tout simplement par manque d'alimentation et de chauffage. On a de la peine à y penser, la Bulgarie n'est pas au fin fond de l'Afrique, la Bulgarie est un jet de pierre de l'Union européenne. Donc il y a vraiment des questions là qui se posent et de manière tragique. Les prisons. La question des prisons. La Cour, évidemment, prend note des problèmes socio-économiques graves qui se posent, notamment dans les pays en transition. Je pense à la Russie, je pense à la Moldova, je pense à l'Ukraine, bien entendu, puisque le champ d'action de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la grande Europe des 47 pays européens du Conseil de l'Europe. Donc, l'interdit de la torture, des traitements inhumains et dégradants, notamment dans les prisons, liés à la surpopulation carcérale, ou à la violence qui peut exister et qui existe dans les prisons. La Cour, évidemment, était confrontée à ces problèmes socio-économiques. Certains États disaient, écoutez, on ne peut pas, avec la crise économique que nous subissons, nous ne pouvons pas assurer le respect des droits de la Convention dans les prisons, notamment la surpopulation carcérale, qui est une gangrène, qui est une gangrène et qui est vraiment la démission de la prison. Et la Cour a continué à dire, et on peut considérer qu'elle est peut-être un peu têtue, mais je crois que parfois il faut être un peu têtu. Il faut être un peu têtu, et la Cour a dit qu'un manque de ressources ne peut justifier que la situation de la prison soit mauvaise au point de donner lieu à des traitements inhumains et dégradants. Vous avez signé la Convention, dit-on aux États. Vous l'avez ratifiée. Vous devez faire en sorte que vous organisez votre système politique et judiciaire pour assurer de ces droits aussi fondamentaux que l'interdit de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, parce qu'il y a aussi un Comité des droits de l'homme des Nations Unies, on ne va pas entrer dans le détail de tout ça, dit exactement la même chose. Traiter toute personne privée de liberté avec humanité, en respectant sa dignité, est une règle fondamentale d'application universelle. Application qui, dès lors, ne saurait dépendre des ressources matérielles disponibles dans un État. Alors, vous allez évidemment m'objecter, oui, c'est facile à dire comme ça, sur papier, mais on n'a pas les possibilités de le faire, il y a d'autres priorités. Il faut bien savoir que si on méprise les droits fondamentaux, la vie, l'interdit de la torture, on crée une violence sociale et institutionnelle qui, à terme, ne va certainement pas apaiser une société, qui va au contraire créer des violences supplémentaires. Sans faire de mauvaises comparaisons, ce que l'on vit aujourd'hui, ce que l'on entend aujourd'hui par rapport à la situation aux États-Unis, c'est exactement ça. Le racisme à la police. Le racisme dans les forces de l'ordre, et sans du tout généraliser, parce que on peut pas faire du tout ici, comme ça, de manière abstraite, le procès de la police. Il y a même des agents de la police, certains policiers aux États-Unis, ça j'ai trouvé terriblement émouvant, qui devant, pendant ces manifestations, eux aussi mettent le genou à terre. Il y a des gens tout à parfaitement respectables et qui sont bien d'accord que le racisme c'est de la police et mettent leur genou à terre. Ça, j'ai trouvé extraordinairement à la fois fort et émouvant. Ça montre que la loi et l'ordre n'est pas incompatible avec l'interdit de la discrimination. C'est vraiment le meilleur exemple. Je m'éloigne un peu, mais on est obligé évidemment de penser à ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc, les situations de pauvreté, bien sûr, ça peut entraîner des violations des droits civils et politiques relatifs à la dignité humaine, à l'intégrité, le droit à la vie et l'interdit de la torture. Mais il faut aller un peu plus loin. Les personnes qui vivent dans la pauvreté et dans l'extrême pauvreté sont limitées dans leur possibilité de faire valoir les autres droits fondamentaux. Ça, c'est une idée nouvelle qui apparaît dans tous les textes des Nations Unies, dans les observations des rapporteurs spéciaux sur la pauvreté, j'y viens dans un moment, qui montrent que ce n'est pas que la vie, la torture, etc. Non, les personnes qui c'est évidemment ça aussi, mais que les personnes qui vivent dans la pauvreté sont limitées dans leur possibilité de faire valoir les autres droits fondamentaux. La vie privée, la vie familiale, la liberté d'expression, le droit d'association, le procès équitable. Le procès équitable, c'est-à-dire l'accès à la justice. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. Mais devant cette situation-là, il ne faut pas simplement dire qu'on va inventer des nouveaux droits pour les pauvres. Non, les pauvres sont comme nous tous. Il faut rendre effectifs pour tous les droits proclamés. Et c'est pour ça qu'il faut le dire haut et fort, les droits de l'homme n'ont de sens, les droits humains n'ont de sens que s'ils sont les droits de tous. Et c'est pour ça que le petit sous-titre, je l'appelle « Une approche inclusive des droits humains », une lecture inclusive de la Convention européenne des droits de l'homme, je voudrais dire une lecture de la Convention alignée sur les nécessités urgentes de répondre aux situations des personnes qui vivent dans la pauvreté et l'extrême pauvreté. Donc voilà ce que je veux dire par une approche inclusive des droits humains. Et puis je vais alors me limiter à trois questions. Je vais dans ce contexte me limiter à trois questions. L'accès à la justice, là j'avais tout à l'heure j'ai parlé de deux, et bien j'en ajoute une. L'accès à la justice, la pauvreté, l'accès à la justice, pardonnez-moi, la protection sociale et le logement. La rapporteure spéciale, la rapporteure, à l'époque c'était une femme, des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure, au moment où on parle, nous avons un rapporteur belge pour l'extrême pauvreté et les droits humains. Et ce rapporteur belge, vous le connaissez évidemment, parce que c'est vraiment une icône, je dirais, en matière de droit. Enfin, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus. Et moi, je trouve, Olivier de Schutter est vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans ce domaine. Il y a plus de 30 ans qu'on travaille ensemble et j'ai vu comme ça comment il se construit dans une intelligence, une humanité, dans ces questions qui est vraiment. Voilà quelqu'un qui vous aide à penser le droit sous tous ses aspects. Eh bien, il est maintenant rapporteur spécial des Nations Unies sur la pauvreté et l'extrême pauvreté et les droits humains. Donc, on peut attendre de lui et on va attendre de lui. Moi, j'ai donné lui les moyens parce que ce job de rapporteur spécial, toute chose, il était avant rapporteur spécial pour l'alimentation, ça vous le savez. Et il y a évidemment un lien entre les deux, mais ils ont pas, je ne vais pas du tout ici faire une crowdfunding, mais je suis quand même étonnée de voir que ce job de rapporteur spécial n'a aucun moyen. Or, s'il veut faire un vrai travail, eh bien, il doit trouver, il doit avoir des collaborateurs, il doit pouvoir. Et donc, il cherche un peu de tous côtés à se constituer des moyens pour faire ce travail sérieusement. Voilà, je lance le message parce que c'est vraiment important. La rapporteure spéciale de 2012. Et c'est elle, enfin, pour moi, peut-être que tout ça a déjà été dit avant, c'est que le manque d'accès à la justice est une des principales raisons pour lesquelles les personnes basculent et demeurent dans l'extrême pauvreté. Et c'est pour ça qu'elle fait le lien entre l'extrême pauvreté et l'accès à la justice, en disant que l'accès effectif à la justice est non seulement un droit humain en soi, mais c'est un instrument de lutte contre la pauvreté et l'inégalité. Sans accès égal à la justice, les personnes qui vivent dans la pauvreté ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits. Et c'est ça le point important. Ils ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits et de dénoncer les crimes, j'espère quand même pas trop, mais quand même, les féminicides, pardonnez-moi, je fais maintenant un peu le lien avec cette question-là dont on parle beaucoup et qui, moi, me préoccupe d'autant plus, qui va avoir une commission interministérielle sur la question de la violence faite aux femmes dans le cadre de la pandémie. C'est une autre histoire, mais cette commission interministérielle va commencer bientôt et il faudra aussi être attentif. Les crimes, les abus, les violations commises à l'encontre des personnes dans situation d'extrême pauvreté et qui sont donc, d'une certaine manière, enfermées dans un cycle d'impunité, de privation et d'exclusion. Et donc, la relation entre la pauvreté et les difficultés d'accès à la justice est un cercle vicieux. Les pauvres sont dans l'incapacité d'intenter des recours judiciaires à travers les systèmes existants, parce qu'il faut d'abord certains moyens, et il faut surtout non seulement des moyens en termes d'argent ou en termes de financiers, mais aussi des moyens intellectuels, des moyens ou sociaux, une sorte d'émancipation sociale pour avoir accès à la justice. Et donc, cette difficulté de le faire accroît la vulnérabilité et donc la violation des droits. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux sur lequel il faut réagir et c'est pour ça toutes les propositions, j'espère qu'elles ne vont pas revenir, de limitation de l'aide judiciaire que l'on a connue ces dernières années, pour moi, pardonnez-moi de le dire, mais c'est une honte. Pour éviter quelques accès ou quelques abus, il y a toujours des abus, je le sais bien, mais pour éviter ça, on ne peut pas limiter l'aide judiciaire, il faut la rendre efficace. Et puis alors, je ne vais pas reprendre tout ce que les autres disent, tous les autres organes internationaux maintenant vont dans le même sens, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dit la même chose, il dit qu'il y a une nécessité urgente de donner un nouvel élan au modèle social européen, fonder, on a déjà dit, la dignité humaine, la solidarité internationale et l'accès à la justice pour tous. Donc l'accès à la justice, c'est vraiment, vraiment ça le point. Et quand on parle de l'accès à la justice, c'est évidemment alors ce qui est bien connu, il faut à la fois le contexte de procès équitable, il faut avoir une justice impartiale, il faut avoir, selon les fameux 4A en anglais, availability, accessibility, adéquacy, adaptability, c'est-à-dire une justice disponible, accessible, acceptable et adaptable. Et Olivier de Schutter, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'était déjà intéressé à ça il y a quelques années, il dit, bien sûr, il faut améliorer les services juridiques, bien sûr, il faut améliorer les outils juridiques, Mais ce n'est pas tout, et on le sait très bien, ça c'est évident. Il faut tenir compte de facteurs structurels, sociaux, économiques plus généraux. Et les causes de cette pauvre justice, c'est l'absence d'expression, d'éducation, d'accès au processus décisionnel. C'est l'impuissance politique qui résulte de l'absence de responsabilisation. Donc, il faut à la fois avoir une vue sur le concret et en même temps avoir une vue globale. La protection sociale, je ne vais pas la prendre parce que le temps passe. Le logement, ça je trouve c'est vraiment quelque chose d'important. La question du logement, je ne dis pas que de la crise sanitaire, c'est la question cruciale, encore que c'est une question cruciale. Le logement, ce qui concerne la protection, la crise économique, c'est évidemment une question cruciale. La place du droit au logement dans la Convention européenne des droits de l'homme doit être posée. C'est un bel exemple sur le plan juridique et je ne voudrais pas être trop compliqué là-dessus. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas un droit reconnu par la Convention. Il n'y a pas dans la Convention des droits de l'homme le droit au logement dans notre Constitution, bien entendu. Et donc, notre Constitution, sur ce point-là, va plus loin. Mais le logement, s'il n'est pas un droit dans la Convention, c'est quand même un intérêt. Et donc, entre le droit et l'intérêt, il y a des liens. Il y a des liens, c'est un intérêt juridiquement protégé. C'est un intérêt juridiquement protégé. Et en termes de droits humains, même si dans les droits civils et politiques dont la Cour a la garde, le droit au logement n'est pas là en tant que tel, c'est un intérêt juridiquement protégé et qui peut évidemment conduire progressivement, et je l'espère, à la reconnaissance d'un droit au logement. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que c'est peut-être moins pertinent en ce qui concerne la crise sanitaire, encore que c'est une question globale. Mais de nouveau, dans l'ouvrage que je vous ai signalé, j'avais alors là toute une série de références et des interventions plus particulières là-dessus. J'en arrive alors à mon troisième point. Donc, il y avait encore les traitements inhumains et dégradants. Je ne veux pas en parler parce que voilà, on ne peut pas prendre tous les thèmes. Et je me rends compte que pour une heure, on passe bien vite, même si lorsque j'avais la parole à la Cour constitutionnelle, j'en avais que 20 minutes. Alors, franchement, est-ce qu'il me restait pour dire un petit quelque chose? J'en viens maintenant alors à mon troisième point, et il sera plus court. Les injustices sociales. Donc, d'une part, des sujets de dignité, on doit vraiment partir de là. D'autre part, des droits pour tous, ça c'est vraiment le point crucial. Et puis de voir comment on peut avoir une lecture inclusive de la Convention européenne des droits de l'homme dans une série de questions dont la Cour a traité, l'accès à la justice, l'interdit des traitements inhumains et dégradants, la protection sociale, le droit au logement et peut-être encore d'autres droits. Maintenant, rattacher la question de la pauvreté aux injustices sociales. C'est peut-être un peu provocant ou un peu dur ce que je vais dire ici. Bien sûr que la pauvreté, c'est une insulte aux droits de l'homme. Bernard De Vos, qui est le délégué général aux droits de l'enfant dans la communauté française de Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, dit que c'est un fossoyeur des droits de l'enfant. Et j'ai cette phrase, moi, depuis longtemps, me trotte en tête, c'est un fossoyeur des droits de l'enfant. Ce qui est tout à fait vrai, parce qu'il dit que l'on s'attache au droit à la santé, au droit à l'instruction, à la vie en famille, à la culture, au jeu, le droit au jeu, bien sûr. Le constat est toujours le même, la pauvreté, plus que n'importe quelle autre réalité, handicape l'exercice positif des droits de l'enfant. Donc, il faut agir sur les causes structurelles de la pauvreté. Agir sur les causes structurelles de la pauvreté, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, est vraiment central. Deux thèmes ici. Un, la capacité d'autres cesser de se méfier des pauvres. La capacité. La situation de pauvreté, évidemment, et on vient de l'esquisser, peuvent entraîner des violations des droits civils et politiques, ces droits de la Convention des droits de l'homme que l'on connaît, ceux relatifs à la dignité humaine, à l'intégrité physique. Mais si on va un peu plus loin, ces situations de pauvreté touchent évidemment aussi, ces personnes qui sont dans les situations de pauvreté se trouvent limitées dans leur capacité à faire valoir tous les autres droits fondamentaux, ce que l'on vient d'expliquer lorsqu'on parle du droit d'accès à la justice. Et ce thème de la capacité à faire valoir les autres droits fondamentaux, le droit à la liberté, en détention, vous avez une majorité de personnes en situation d'extrême pauvreté, le droit à la vie privée et familiale, les enfants placés, c'est dans la situation de pauvreté, la liberté d'expression, le droit d'association. Et donc, on vient ici sur un thème qui, de nouveau, au niveau de la philosophie, est un thème bien connu. C'est un thème de la capacité ou de la capabilité, c'est un peu du mauvaise traduction française, un terme anglais, qui a été théorisé par une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum. Et elle fait une approche en termes de capacité. Elle fait une approche de la pauvreté en termes de capacité, pas simplement comme un manque de revenus. Elle dit que la pauvreté, ce n'est pas simplement un manque de revenus, c'est la capacité à faire valoir d'autres choses, à faire valoir d'autres droits fondamentaux. Et ce thème de la capacité est évidemment pour moi un thème d'une richesse extraordinaire, parce qu'on dépasse, simplement cette situation concrète de simples revenus, mais surtout cette possibilité de ne pas avoir la capacité de faire valoir l'ensemble d'autres droits ou d'autres situations qui sont tout à fait légitimes. Et ça, c'est évidemment pour moi le cœur de l'affaire. Et on assiste à un certain paradoxe ici. Et donc, il faudrait lire ça plus à fond, les travaux de Nussbaum. Toute chose qu'on a toujours envie de faire tout le temps et qu'on ne trouve pas le temps de le faire, peut-être pendant le confinement, on aurait pu trouver le temps de faire tout ça. Et donc, ces travaux de Nussbaum là-dessus sont vraiment intéressants. Et en envisageant de cette manière, eh bien, ça donne des très solides arguments pour justifier une obligation légale contraignante, et ici je pèse un peu mes mots, qui pèserait sur les États d'éradiquer la pauvreté. Et donc, si on pose ces questions en ces termes, eh bien, on peut trouver qu'il y a une obligation légale pour les États. Si c'est la capacité pour les personnes, toutes les personnes, de faire valoir des droits humains, eh bien, l'État doit agir pour éradiquer la pauvreté. Moi, j'attends toujours une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme qui dirait simplement ceci, que les situations d'extrême pauvreté sont un traitement inhumain et dégradant, voire une torture, c'est-à-dire une violation de l'article 3 de la Convention. Et ce thème de la capacité, développée par Martha Nussbaum, eh bien, permet de donner des arguments à ça. Parce qu'il y a un certain paradoxe quand même que nous vivons aujourd'hui. Il y a un recul des droits économiques et sociaux, et j'espère que toute la suite de la pandémie ne va pas entraîner ce recul des droits économiques et sociaux. Mais ça va de pair avec quelque chose qui est à la fois très généreux, mais peut-être un brin ambigu. C'est la promesse d'un progrès éthique et de la responsabilité sociale des entreprises. On parle beaucoup de ça. Et c'est vrai que c'est très généreux, c'est vrai que c'est très important qu'il y ait ça. Mais renforcer les droits économiques et sociaux, le droit à un niveau de vie décent, à des moyens de subsistance, à l'éducation, moi je pense, je suis convaincue, mais prête à en discuter, que ça va au-delà du devoir moral, mais ça institue une véritable obligation juridique. Et c'est là qu'on doit aller. Il faut que les droits sociaux soient justiciables. Parce que ces droits sociaux, le droit à un logement décent, le droit à un niveau de vie décent, aux moyens de subsistance, au travail, enfin, tout cet ensemble, les droits culturels aussi, eh bien, si effectivement ces droits deviennent justiciables, ce sont des instruments de transformation sociale et qui pourra corriger le libéralisme économique et pourra être guidé par d'autres objectifs. Donc, ça va introduire la démocratie sociale. Et aujourd'hui, on parle par exemple de démocratie sanitaire. C'est quand même un peu du même ordre. C'est introduire la démocratie dans ces lieux. La démocratie sociale, c'est pas une autre forme de démocratie. C'est un élément inhérent à tout régime démocratique. La démocratie sanitaire qui est développée notamment par Isabelle Ferreras. Et dans cette immense pétition, cet immense texte qu'elle a fait circuler au départ de 20 femmes encore bien académiques, qu'aujourd'hui a été signée par plus de 3500 académiques all over the world, dans toute la planète, eh bien, un élément central de départ, c'est précisément la gouvernance et la gouvernance démocratique. La démocratie au sein de la gouvernance des entreprises. Ce thème est vraiment crucial. Alors, voilà, je dirais la capacité et comment ce thème de la capacité peut nous amener au-delà de la responsabilité sociale des entreprises. C'est très bien, je ne veux pas la critiquer, mais on doit aller à la véritable reconnaissance de droits économiques, sociaux et culturels. Et lorsque l'on voit le secrétaire général des Nations Unies, le programme de développement durable pour l'après 2020, la dignité pour tous d'ici à 2030, éliminer la pauvreté, transformer nos vies, protéger la planète, s'oriente dans cette direction. Il y a tout un programme je ne peux pas le développer parce que le temps avance. Il y a toute une série de points qui sont indiqués très, très clairement. Dignité, en finir avec la pauvreté, lutter contre les inégalités, donner leur place aux femmes et aux enfants. Et donc, je prends ces deux éléments-là, protéger les écosystèmes, bien entendu, et la planète. Et puis, Alain Supiot, qui est un professeur au Collège de France, il a une analyse que je trouve aussi vraiment passionnante. Lui, c'est un juriste. Et il dit qu'il y a deux conceptions de la pauvreté. Il y en a une qui dit que c'est un fléau social. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie. Et il dit que la pauvreté, c'est un fléau social, c'est comme les catastrophes naturelles, c'est comme la sécheresse. On peut limiter les effets, mais pas les causes. Et puis, d'un autre côté, on peut dire que la pauvreté, c'est pas une fatalité. Elle plonge ses racines dans le terreau des injustices sociales, et c'est là qu'il faut agir. Et c'est pour ça que j'intitule le second sous-point de cette dernière partie « Les injustices sociales ». C'est là qu'il faut agir. C'est là qu'il faut agir parce que c'est là que la pauvreté trouve ses racines. Et c'est là que les droits fondamentaux peuvent prendre leur sens. Et il y a un autre juge à la Cour constitutionnelle en Belgique, Luc Lavrezen, qui l'écrit très justement. Et parler de ça à la Cour constitutionnelle, pour moi, avait du sens. Et dit la pauvreté, c'est à la fois la cause et la conséquence des violations des droits fondamentaux. Voilà ce qu'un juge de la Cour constitutionnelle belge dit. Et il y a un jugement du tribunal correctionnel de Liège, parce qu'on pourrait développer ça plus largement, qui, ça concernait l'arrêté mendicité. Et dit la mendicité, ce n'est pas contre la mendicité que les autorités publiques doivent réagir, mais ils doivent réagir contre la pauvreté. C'est exactement dans le même esprit. Alors, comment agir? Évidemment, ça, c'est pas simple. Ça, je reconnais que c'est pas simple. Alors, nos fameux deux prix Nobel de l'économie, Esther Duflo et Banerjee, que tout le monde connaît, qui ont écrit leur ouvrage magnifique, Repenser la pauvreté, ils donnent à l'attention des décideurs un message tout à fait important. Et ils disent, dans la lutte contre la pauvreté, ce sont les politiques qui doivent s'adapter aux pauvres et pas l'inverse. Et ça, il faut vraiment le dire et le comprendre et le faire valoir. Ils constatent que les pauvres font l'objet de dispositifs juridiques très nombreux, c'est ce qu'on constatait au début, mais ils ne sont quasiment jamais considérés comme des sujets invités à faire connaître leur expérience de la pauvreté. Et ils expliquent que les pauvres sont dignes d'admiration, de respect, mais rarement comme source de connaissances, comme personnes qu'il importe d'entendre pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils expliquent, et je partage entièrement cette analyse, les personnes doivent être au centre de leur développement et pas simplement un pion sur un échiquier d'experts. Et c'est pour ça que j'ai les références, elle dit plus radicalement, il faut cesser de se méfier des pauvres. Et je vais terminer par ça. Vous savez qu'il y a un service de lutte contre la pauvreté ici en Belgique. Il y a fait un rapport 2019. Et dans ce rapport 2019, il y aura un rapport 2020, et avec la pandémie, ce rapport sera un travail fou à pouvoir être élaboré. Ça sera vraiment important que ce service puisse continuer à travailler avec la compétence qui est la leur. Dans ce rapport 2019, qui était sorti juste au moment où il y avait la journée à la Cour constitutionnelle, c'est la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, c'est ça le titre général de ce service. Ce rapport du 11 décembre, il est intitulé de manière significative « Durabilité et pauvreté ». C'est exactement la même chose qu'ils disent. C'est pourquoi qu'il n'y a pas que les scientifiques ou les philosophes qui disent des choses comme ça. Non, ces idées percolent jusque dans notre quotidien. Et ce service dit ceci, les différents gouvernements du pays, mais tous ceux qui mettent en place les initiatives pour plus de durabilité, devrait systématiquement utiliser les situations de pauvreté comme point de départ et pierre d'angle de la réalisation des droits fondamentaux de chacun. Et cela peut se faire en évaluant dès son élaboration l'impact d'une politique ou d'une mesure sur les personnes en situation de pauvreté pour les ajuster si nécessaire. Il est essentiel d'impliquer les personnes et les différentes parties prenantes à ce processus. Voilà, je referme la boucle du départ. La boucle du départ, eh bien, c'est effectivement, il faut partir de la rue des droits de l'homme. La rue des droits de l'homme, l'expérience des personnes qui se trouvent à la gare centrale tous les jeudis soirs, qui veulent ensemble lutter avec les instruments du droit. Il faut les appliquer et à partir de là, construire l'affaire. Voilà, pardonnez-moi, j'espère que je n'ai pas été trop long, peut-être que j'ai un peu dépassé l'heure syndicale, pardonnez-moi. Cette matière est tellement importante, il y a tellement de choses qu'on a envie de dire et qu'on voudrait dire. Voilà, je vous remercie de votre gentille attention et je vous souhaite une très très bonne journée à tous.
Vous venez d'écouter Françoise Tulkens, enregistrée le jeudi 4 juin 2020. Françoise Tulkens est ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme et professeure honoraire de l'Université de Louvain. Le thème développé était « Les droits humains à l'épreuve de la pauvreté ». Pour plus d'informations, retrouvez un ouvrage intitulé « Le droit face aux pauvres » sous la direction de Marie-Françoise Rigaud et François Daout, aux éditions Die Keur.